Bonsoir. Processus électoral en RDC. Depuis le début de cette semaine, la CENI organise une série de rencontres avec les partis politiques et la société civile notamment. L'objectif de ces rencontres, c'est entre autres mettre en place une feuille de route du processus électoral 2013-2016 qui devra débuter par l'organisation des élections locales, municipales et urbaines. Comment analyser cette démarche de la CENI? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Trois invités participent à cette émission. Professeur Kibangu Kalala, professeur de droit public à l'université de Kinshasa. Il est président national du parti politique Notre Beau Pays, parti proche de la majorité présidentielle. Bonsoir professeur.
Bonsoir Alain.
Maître Juvenal Mounoubo, député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise. Honorable Mounoubo, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir au professeur Kibangu.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La CENI organise depuis lundi une série de rencontres. Elle a tour à tour rencontré la société civile avec qui elle a mis en place un cadre de concertation. Ensuite, elle a rencontré la classe politique avec qui elle a convenu de mettre en place un forum de partis politiques pour des concertations des élections. Pour l'abbé Apollinaire Malumalu, son bureau tient à faire sortir le 8 novembre 2013 une feuille de route du processus électoral 2013-2016. Un processus qui devra débuter par l'organisation des élections locales, municipales et urbaines. On écoute l'abbé Apollinaire Malumalu au micro d'Askin Zigbia.
Si maintenant nous voulons que les élections locales et provinciales soient tenues, cela doit se faire selon le fichier électoral actuel corrigé, cela veut dire consolidé. On dégage un diagnostic du fichier électoral, on regarde quelles sont les corrections qu'il faut porter à ce fichier, assorti d'un certain nombre de vérifications sur le terrain qui sont suivies, et on reconnaît que ces élections auraient pu se passer dans le cadre du fichier actuel, et que c'est simplement par un dysfonctionnement que cela n'a pas eu lieu. Et donc ces arriérés-là, nous devons les réussir selon un schéma construit, mis dans le contexte même de leur tenue. Par exemple, les élections urbaines, municipales et locales, elles ne pouvaient pas avoir lieu avant les mesures d'application des lois essentielles, la loi qui fixe les entités décentralisées et la loi qui fixe les entités déconcentrées. Parce que c'est le groupement qui est la circonscription électorale en milieu rural, c'est la commune en milieu urbain. Donc, les lois ont été votées, l'une à 2008, l'autre à 2010. Les mesures d'application, le décret du Premier ministre ne vient que de sortir il y a, je crois, un mois. Nous attendons encore les arrêtés du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions et la décentralisation pour connaître aussi les mesures d'application de la loi fixant les limites à l'intérieur des provinces. Lorsque la CENI aura ces deux outils, elle pourra être à même de proposer les élections locales.
Oui, c'était là l'abbé Apollinaire Malumalu, président de la CENI, au micro d'Askin Zigbia Tayoro. Professeur Kibangu Kalala, vous êtes professeur de droit public à l'université de Kinshasa. Vous êtes également président national du parti politique Notre Beau Pays, parti proche de la majorité présidentielle. Professeur, vous avez pris part à cette rencontre entre la CENI et les partis politiques. Comment vous analysez cette initiative ou cette démarche de la CENI?
Oui, merci. Alain Ronk, d'abord pour m'avoir invité à cette émission.
Je vous en prie.
Je salue le professeur Kabamba et honorable Juvenal Mounoubo, avec lequel je vais animer cette émission. Pour répondre à votre question, c'est vrai, j'ai participé à la réunion avec notre parti, avec le président Malumalu de la CENI. Son initiative, c'est une bonne initiative, c'est une très bonne démarche, de pouvoir associer tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, à la définition, à l'élaboration du processus électoral dans notre pays. C'est très bien, parce que la CENI organise les élections pas pour elle-même, mais organise les élections pour notre peuple. Et donc il est très important que les grandes composantes, les grandes familles politiques, les acteurs du monde associatif soient associés à cette démarche. Donc c'est très bien. Mais j'ai quelques réserves, personnellement, par rapport à ce qui se fait. Notamment, Abbé Malumalu nous dit qu'il faut commencer les élections par les élections locales, urbaines et municipales.
Un nouveau cycle électoral.
Et un nouveau cycle électoral. Je ne suis pas d'accord avec lui à ce sujet. Je pense qu'il faut terminer le cycle qu'on a commencé. Il faut organiser les élections provinciales avant les élections locales, municipales et urbaines. Pourquoi ? Parce que les élections provinciales présentent un enjeu important pour notre démocratie. Aujourd'hui, nous avons des assemblées provinciales qui sont totalement dépassées, hors mandat. Nous avons le Sénat qui est hors mandat. Nous avons en fait des institutions qui sont pratiquement des institutions bancales, fonctionnelles. C'est une honte pour notre pays. Un pays qui s'appelle République démocratique. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des institutions qui fonctionnent de cette manière. Nous avons une Assemblée nationale fraîchement élue, qui a une légitimité fraîche. Je pense qu'il faut qu'on puisse rafraîchir aussi la légitimité du Sénat, qui est déjà assez vieille. Et donc, il faut organiser les élections provinciales pour nous permettre de régler ce problème, d'avoir un nouveau Sénat, d'avoir des nouvelles assemblées provinciales, d'avoir des nouveaux gouvernements provinciaux. Ça, c'est très important. Maintenant, les élections locales. Il y a beaucoup de préalables. Je crois qu'il a lui-même cité quelque chose là-bas. Il y a beaucoup de préalables. Je ne vois pas comment on va régler ces problèmes dans quelques mois. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mon propre territoire, territoire de Tshilingué, dans le Kasaï oriental. Mais il n'y a pas un tribunal de paix à Tshilingué. C'est qui est le cas de plusieurs autres territoires. Donc il n'y a pas un juge électoral à Tshilingué, à Ouvira et ailleurs. Alors, si on organise les élections locales aujourd'hui, s'il y a un contentieux, ben, qui va trancher ce contentieux électoral? Parce que le juge n'est pas là. Et donc, il y a des tribunaux de paix qu'il faut installer. Ça va vous prendre des mois et des mois, si pas des années, pour régler ce problème complexe. Peut-être qu'on va revenir là-dessus au cours de cette émission, mais je pense pour moi qu'il faut inverser les choses. Il faut organiser en toute priorité, en tout cas l'année prochaine, les élections provincial pour régler le problème que je viens de soulever, et ce n'est qu'après qu'on pourra voir régler le problème des élections locales avec le recensement de la population, etc.
Mais professeur, l'abbé Malumalu n'a-t-il pas raison de commencer un nouveau, en parlant de commencer un nouveau cycle électoral pour permettre d'avoir un cycle électoral régulier, voire normal?
Non, bien au contraire, parce que il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons l'Assemblée nationale et le président de la République, qui sont élus pour 5 ans. Leur mandat va arriver à expiration en 2016. Mais entre-temps, nous avons le Sénat et les assemblées provinciales qui sont déjà hors mandat. Ils sont déjà dans la 7e année. Bon, si on organise les élections provinciales l'année prochaine, je ne sais pas où, en 2015, mais ces nouveaux élus, ils auraient un mandat de combien de temps? Là, vous savez, on va aller jusqu'en 2018 ou 2019. Donc, le déséquilibre que nous constatons aujourd'hui va persister. Et donc, moi, j'ai déjà proposé devant les micros de Radio Capi pour dire que pour moi, les futurs élus, les futurs sénateurs, les futurs députés provinciaux qui seront élus, d'après moi, l'année prochaine.
Et les gouverneurs.
Tous ces beaux mondes, ils auront un mandat de 3 ans qui doit expirer en 2016, au même moment que le mandat du président de la République et de l'Assemblée nationale actuelle. On va mettre tout le monde sur la même ligne d'arrivée et, en d'autres termes, sur la même ligne de départ. Donc on va régler ce problème. Et comment on va le régler? Pas nécessairement réviser la Constitution. Non, on peut le faire. Mais on peut aussi demander au juge constitutionnel d'interpréter la Constitution de manière à faire en sorte que les prochains élus aient un mandat de 3 ans au lieu de 5 ans,
pour harmoniser le fonctionnement de nos institutions.
Merci. Honorable Juvénal Monobo, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC. Vous venez de suivre le professeur Tshibangu. Comment vous analysez cette démarche de la CENI?
Je voudrais d'abord remercier la CENI pour cette initiative de lancer un forum des partis politiques pour préparer les élections à venir. Et je voudrais que le délai, la date du 8 novembre soit respectée, parce qu'elle vient d'être lancée par l'abbé président de la CENI. Donc nous attendons qu'effectivement qu'à cette date qu'il y ait une feuille de route de toutes les élections, donc de 2013 à 2016. Nous attendons aussi qu'un budget programme soit attaché à cette feuille de route. Pourquoi? Parce qu'il faut planifier en termes de budget également. Et nous souhaitons d'ailleurs que les projets de budget 2014 puissent déjà prévoir des allocations pour les élections à venir. Et je crois que l'évaluation du processus électoral doit être un exercice permanent, pratiquement en 2014-2015. Donc on doit rester en contact pour évaluer, tirer les leçons des élections bâclées de 2011 et organiser de façon satisfaisante et crédible les élections à venir. Je suis d'accord avec le professeur Tshibangu Kalala qu'il ne faudrait pas commencer par les élections locales. Eh bien, il faut clôturer les cycles entamés la fois passée. Et donc, il faut commencer par les élections provinciales. Pourquoi? Parce que les députés provinciaux, les gouverneurs des provinces, les sénateurs, à ma connaissance, ce ne sont pas des chefs coutumiers. Je crois qu'ils sont à leur 7e année de mandat. Et je crois qu'en démocratie, il faut renouveler. Les élections donnent la vie à la démocratie. Et je crois que le professeur Tshibangu Kalala et même Bob Kabamba, ils sont d'accord avec moi sur ce plan. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le professeur Tshibangu Kalala, c'est lorsqu'il évoque une possibilité de réviser la Constitution. À l'UNC, nous disons que la Constitution ne doit pas être touchée jusqu'en 2016.
Sans être son avocat, il a dit pas nécessairement.
Mais il a dit on peut. On peut, pourquoi pas, réviser. Donc, je me limite à cette partie. Je crois qu'il l'a dit de bonne foi. Eh bien, nous devons être le plus clair possible. Et cette question doit être la plus claire possible. On ne touche pas à la Constitution jusqu'en 2016. Eh bien, l'éventualité d'une révision constitutionnelle pourrait intervenir, en tout cas, après le 19 décembre 2016.
Alors, 2017, honorable, le professeur dit qu'il faudrait les élections municipales pour permettre aux futurs députés provinciaux, sénateurs, gouverneurs, d'avoir un mandat de 3 ans. C'est à ce niveau-là qu'il a abordé l'affaire de la Constitution. Mais comment, à votre niveau, comment on pourrait avoir un cycle électoral régulier ou normal?
Je crois qu'il faut prendre la mesure de la question et il faut agir avec urgence. Vous savez, c'est-à-dire nous traînons les pas. Le gouvernement traîne les pas. Pourquoi le gouvernement n'a pas encore transmis à la Chambre basse les budgets, les projets de budget? Il faut savoir que cette session parlementaire, c'est une session qui a été amputée en bonne partie par les concertations nationales. Eh bien, nous devrions déjà être en pleine session, effectivement en pleine session. C'est vrai, l'ouverture a été faite. Eh bien, il faudrait qu'on nous transfère les projets de budget, parce que tout dépend de l'argent, je pense, mais que l'argent ne soit pas utilisé en 2016 comme un prétexte pour dire voilà, on n'a pas eu l'argent pour organiser les élections. Je crois qu'il faut mesurer l'importance de la question et surtout réaliser que il y a l'urgence à faire et les sérieux à faire. Et je crois que si on mesure ça, si on conçoit ça de cette façon, eh bien, il n'y a pas moyen d'imaginer une quelconque révision ou réforme en termes de mandats réduits de 5 à 3.
Il y a l'abbé Alain-Joseph Lomandja de Kinshasa qui dit « L'ancien bureau de la CENI a utilisé le dialogue avec les parties prenantes au processus électoral comme une tactique. Nous espérons que l'actuel bureau en fera un moyen vital et incontournable pour le succès du processus électoral honorable. »
Oui, donc j'ai commencé par saluer effectivement cette initiative de la CENI. C'est une bonne chose. Et je crois que c'est ce qui était fait en 2006, si j'ai bonne souvenance. Mais je crois que l'abbé président de la CENI devra en plus s'entourer des experts non seulement des Congolais, mais aussi des experts internationaux. Vous savez, le processus électoral, c'est un processus délicat, c'est sensible, je dirais. La question sécuritaire, elle est sensible. Celle électorale l'est aussi. Eh bien, il faut beaucoup de garanties, la présence des experts, les cadres de concertation des partis politiques, des experts tant nationaux qu'internationaux. Donc, je salue l'initiative et je voudrais que les délais, par exemple, pour la feuille des routes soient tenus. Et nous voudrions, en fait, qu'un calendrier complet pour les élections soit présenté. L'option pour nous, c'est aussi le couplage. Pourquoi ne pas coupler toutes ces élections?
Cela ne coûterait-il pas plus cher, honorable?
Bien sûr qu'il y a les problèmes de budget, nous en sommes conscients. Mais pourquoi le gouvernement congolais ne mobilise pas des ressources? Vous savez, nous avons beaucoup de ressources dans ce pays, la République démocratique du Congo. C'est un scandale géologique. J'avais salué l'initiative des coulages des recettes, un séminaire sur les coulages des recettes qu'avait organisé le Premier ministre. C'était une bonne initiative, mais quels sont les effets de cette rencontre? Eh bien, l'argent se trouve au Congo.
Et donc, vous pensez que c'est possible en
même temps? C'est possible si on mobilise les recettes, les ressources. Si on canalise tout ce qui est perdu dans les domaines miniers et pétroliers, des hydrocarbures, eh bien, il y a lieu de permettre à l'État congolais d'avoir un budget, en tout cas pas celui de 7 milliards de dollars, un budget beaucoup plus que ça. Nous méritons mieux que ça.
Merci, honorable. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, comment vous analysez cette démarche de la CENI?
Oui, merci pour l'invitation. Je profite aussi pour saluer mes collègues de ce soir avec qui nous allons débattre sur cette question combien importante. Il faut bien se rendre compte, lorsque l'on parle d'un processus électoral, il ne s'agit pas d'un processus électoral qui appartient à une institution, en l'occurrence ici la CENI. C'est un processus qui doit être partagé par tout le monde, c'est-à-dire par aussi bien les institutions politiques que par la société civile, que par les partis politiques et aussi bien que par ce qu'on appelle les partenaires. Il est hyper important que tous les processus soient appropriés, que les différents parties prenantes s'en approprient, ça veut dire qu'ils en fassent leur affaire. Les premiers intéressés sont les partis politiques. Et vous imaginez que les partis politiques, s'ils ne sont pas partie prenante dans un processus électoral, le processus électoral est voué à l'échec. Et c'est pour ça qu'il est hyper impératif que les partis politiques soient associés de manière permanente et de manière continue sur le suivi et sur l'analyse et sur même tous les processus électoraux. Les partis politiques doivent être au courant de tout ce qui se passe. Ils doivent être au courant de tous les changements potentiels qui peuvent arriver en cours de route et ils doivent être consultés et pour pouvoir arriver à avoir un processus transparent et avec tous les acteurs qui soient impliqués. Parce que s'il n'y a pas cette transparence, s'il n'y a pas cette implication des partis politiques et des autres partis prenantes, je peux vous dire que les différents partis processus qui n'ont pas intégré cette dimension sont voués à l'échec. Alors si, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez par exemple que M. Labbé Nalumalu, président de la CENI, publie le 8 novembre, comme il a annoncé, la feuille de route, sans en avoir préalablement discuté avec les partis politiques. Je peux vous imaginer la montée de l'opposition sur les questions qui pourraient être abordées dans cette feuille de route. Donc c'est ça qui est important, de pouvoir arriver à ce que la CENI puisse intéresser les partis politiques, intéresser la société civile, intéresser les institutions politiques pour qu'il puisse y avoir une espèce de cohérence et une dynamique qui permette de pouvoir que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et comment on va organiser ces élections importantes. Alors vous imaginez par exemple, je vous donne un exemple, Monsieur Labbé par exemple à la CENI, si elle essaye d'aborder, de proposer un budget pour l'organisation des élections prochaines, sans tenir compte des impératifs, par exemple, budgétaires du gouvernement congolais, en coordination avec le ministère de Finances, Budget, Banque Centrale, etc., ben, vous imaginez que, ben, on va droit dans le mur. Ça veut dire que M. Abiola va faire un budget qui ne tient pas compte des prévisions des recettes du gouvernement. Donc ça, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir arriver à avoir cette dynamique inclusive pour que tout le monde soit impliqué. Sinon, le processus électoral va droit à l'échec.
Professeur, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
André Mbouy, quand vous repartez de Kinshasa, peu importe tout ce que la CENI peut faire, elle restera toujours dépendante au lieu d'indépendante. Et ce sont toujours les mêmes personnes-là qui reviennent. Donc, nous n'avons aucune confiance que le peuple congolais puisse s'attendre au même scénario de 2006. En plus, il n'y aura jamais les élections transparentes ici en RDC tant que nous avons encore la Commission électorale nationale dépendante, donc CENP en cycle.
Finalement, professeur, avec tout ce qui s'est passé dans le processus électoral en RDC, la confiance ne serait-elle pas le plus grand défi qui attend la CENI?
Ben justement, c'est non seulement la confiance vis-à-vis de la population congolaise, mais aussi vis-à-vis des partis politiques, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale qui va envoyer des observateurs qui vont pouvoir observer et dire si ces élections sont crédibles ou pas. Mais tout ceci, la non-confiance de la part de la population vis-à-vis du processus électoral, découle au fait de tout ce qui s'est passé par rapport aux élections qui viennent de se passer, et avec une dynamique où beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui se passait, et de plus, on n'a même pas eu une espèce d'appropriation de la population de ce processus. C'est pour ça qu'il est hyper important que la société civile soit vigilante, qu'elle interpelle et qu'elle doit absolument être partie prenante dans le processus. Et de cela se couple aussi de la dimension de l'éducation électorale qui est hyper importante. Malheureusement, dans beaucoup de processus, dont dans celui de la RDC, l'éducation électorale est souvent le parent pauvre, c'est-à-dire on donne moins de financement à l'observation et à l'éducation électorale que aux autres opérations.
Professeur.
Or, on oublie souvent que sans que la population ne puisse accepter que la procédure est transparente, ceux qui sont élus, qui sont issus de telles élections, ont des problèmes.
Merci.
Sur souvent des légitimités.
Merci, professeur. Professeur Chibangu, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Jean-Paul Ngabo, à partir de Kisangani, province orientale. À mon avis, je pense qu'organiser les élections après les recensements est une bonne façon de corriger les erreurs du passé, pourvu que l'abbé Malumalu ne soit pas au service d'un agenda caché. Car s'il y a un agenda politique caché, le manque de moyens financiers pour faire les recensements peut servir d'un bon prétexte pour ne pas organiser les élections, même jusqu'en 2016.
Réaction, professeur.
Oui, mais c'est vrai, justement. On ne va pas continuer avec le provisoire dans le pays, parce que le corps électoral dans notre pays est constitué à partir de ceux qui ont l'âge de voter. C'est ça le corps électoral. Mais la répartition des sièges dans les assemblées politiques ne doit pas tenir compte seulement de ceux qui ont l'âge de voter. Il faut voir la population dans son ensemble, territoire par territoire, province par province. Donc il faut le recensement général de la population. C'est très utile. Il faut le faire. Mais ça va nous prendre beaucoup de temps, le recensement général. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, etc. Le gouvernement a déjà disponibilisé certains véhicules qu'on nous a montrés à la télévision pour lancer le processus de recensement de la population. Ça doit se faire, et ça va se faire. Mais en attendant cela, il faut régler des problèmes qui sont des problèmes urgents. Il faut terminer le processus qu'on avait déjà commencé. Tout à l'heure, mon ami honorable Mounoubo
n'était pas d'accord avec la
révision de la Constitution.
Hein, notamment.
En disant oui, mais nous sommes d'accord pour réviser la Constitution, mais après 2016. Pas avant. Donc, nous sommes d'accord. Mais ce que j'ai voulu proposer comme problème, c'est pour régler le problème de dysfonctionnement de nos institutions. Parce que si on élit des députés provinciaux demain, par exemple en 2014, ils vont aller jusqu'en 2019. Dans 5 ans. Et chaque fois, il y aura toujours un décalage. On aura toujours une assemblée nationale qui va siéger à côté d'un Sénat dépassé, etc. Et donc, ça, il faut vraiment régulariser le fonctionnement de nos institutions. C'est à ce moment que j'ai proposé une idée qu'il faut faire en sorte que les prochains élus aient un mandat de 3 ans. Comment le faire? On peut soit réviser la Constitution, mais pour ceux qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, il n'y a pas de problème, on ne peut pas toucher. Mais il y a une autre manière de faire les choses, c'est l'interprétation. Alain Hirung, on l'a fait en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Il était question d'organiser l'élection présidentielle dans un délai de 15 jours. Entre le premier tour et le deuxième tour, la Constitution prévoit un délai de 15 jours pour faire les élections. Mais on s'est trouvé devant des difficultés énormes en 2006. On ne pouvait pas organiser le deuxième tour, élection présidentielle, après 15 jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à la Cour suprême pour interpréter la Constitution. Et la Cour a dit, oui, il y a des difficultés réelles, des contraintes réelles. Ce n'est pas possible de respecter les 15 jours. Là, il faut 2 mois, 60 jours. Et donc, on a interprété la Constitution. On a organisé le deuxième tour de l'élection présidentielle 60 jours après, alors que la Constitution prévoit 15 jours. Et donc, on peut faire la même interprétation. Considérez, par exemple, que la deuxième législature a commencé déjà depuis 2011, deuxième législature, mais il y a eu un retard pour organiser les élections provinciales, pour avoir aussi le Sénat. Et donc, on peut interpréter en disant, dans ce cas-ci, eh bien, il faut que les nouveaux élus, leur mandat, expire à la fin de la deuxième législature, ensemble avec le mandat du président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une interprétation, et c'est valable. On ne va pas toucher à la Constitution. On l'a fait, par exemple, en Côte d'Ivoire aussi. Et donc, le problème ne se pose pas. On peut le régler. Pour nous, l'essentiel est qu'on ait un cycle électoral normal, que les mandats arrivent à échéance pour toutes les institutions et qu'on démarre dans de bonnes conditions. Il faut mettre fin au gap, comme on l'appelle, actuel, qui n'honore pas notre pays. Il faut y mettre fin.
Professeur, l'honorable Juvenal Munubo a, par exemple, proposé le couplage des élections. Il dit que la RDC a des moyens pour ça.
Non, ça c'est une vue de l'esprit. Vous savez, il y a une légende, hein, c'est-à-dire que la RDC est très riche. Mais quand vous voyez ce qui entre dans la caisse de l'État chaque mois, il faut être réaliste et responsable. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui pour coupler les élections locales, provinciales, en même temps. C'est un budget énorme. Écoutez, monsieur Alain Hirung, la démocratie ne doit pas coûter cher à la République plus que le développement. On ne va pas mettre toutes les richesses du pays dans l'organisation des élections. C'est trop cher, les chiffres sont... Parmi nous, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut prendre, à mon avis, il faut séparer les choses. Il faut commencer par les élections provinciales, qui ne coûtent pas très cher, parce que le gros du travail est déjà fait. On a déjà le matériel électoral qu'on a payé des élections passées. On a déjà les cartes d'électeurs déjà distribuées. Et donc, il y aura, c'est vrai, de l'argent dépensé, mais ça ne sera pas un budget colossal.
Merci.
C'est tenable, c'est faisable. En serrant bien les choses, on peut régler la question des élections provinciales parce qu'il y a des enjeux importants qu'il faut régler avec ces élections. Les locales, c'est bien, on va le faire. Il n'y a pas d'enjeu majeur pour les locales. On peut le faire après.
Merci, professeur. Honorable Juvenal Munubo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient d'Isiro, en province orientale.
Maître Jean-Pierre Goumenote, à Isiro, province orientale. Que la CENI cesse de nous distraire. Comment peut-on vouloir organiser les élections libres, transparentes et démocratiques en RD Congo, qui est maintenant déchiré par les multiples rébellions, qui est divisé et en même temps où les gens souffrent de faim, de maladies. Si la CENI tient à organiser réellement des élections libres, transparentes et démocratiques, il faudrait de la patience. Sinon, elle risque d'organiser des élections qui seront à l'origine d'autres conflits à RD Congo.
Réaction honorable.
Bon, vous savez, le processus de paix, c'est un processus laborieux, nous sommes conscients de ça. Et puis des rébellions à l'Est, l'insécurité à l'Est, faut-il incomber ça, il faut mettre ça sur les dos de la population. Qui devait mettre fin aux rébellions, hein, et à temps, pour permettre à ce que l'autorité de l'État s'étende de tout ça. Et il faut pas dire que cet habitant de, je sais pas moi, au Maniema, là où parle l'auditeur, en province orientale, est responsable de ça. Donc, il faudrait pas qu'on évoque... Le processus de pacification est en cours. L'accord cadre a été signé à Addis Abeba. En tout cas, nous, au niveau de l'opposition, notre rôle, c'est d'insister sur la nécessité de respecter ces cadrages-là vers la paix. Il faut un dialogue politique interne pour décrisper le climat politique. Pas ce qui vient de se réaliser, qu'on a appelé concertation nationale. Eh bien, on ne peut pas évoquer, il ne faut pas qu'on commence à évoquer cela, que voilà, comme il y a des groupes armés à l'Est, comme il y a une insécurité à l'Est, il faut prendre patience, ne pas se presser à produire une feuille de route. Je crois que c'est
donc
un raisonnement.
Donc ce n'est pas un préalable.
Oui, moi je crois que ce n'est pas un préalable. Et l'évoquer comme préalable, à moins qu'on veuille bien que ce soit un préalable prétexte.
Il y a Kipoka Djabs de Moba Okatanga qui dit « Organiser les élections à la base est le souhait du peuple qui voudrait voir fonctionner les institutions de la base pour lui permettre de s'exprimer directement, mais nous craignons que cette initiative ne soit détournée par des intérêts égoïstes de certains politiciens moins sensibles à la misère du Congolais honorable. »
Je ne crois pas qu'il faut voir une mauvaise intention. Je crois qu'il faut quand même être positif par rapport à ça. La démocratie, les élections à la base, c'est le choix que nous-mêmes nous avons fait. C'est le choix de 2005 du référendum. C'est notre constitution qui prévoit tout ça. Et donc, il ne faudrait pas aussi voir les diables partout. Eh bien, il faut être positif. Et je crois que en organisant les élections, quelles soient les élections provinciales et locales, il ne faut pas déjà avoir une lecture assez négative. L'essentiel, c'est de se réaliser effectivement qu'on a fait passer beaucoup de temps. Eh bien, il faut agir dans l'urgence et surtout dans la responsabilité. Et il ne faudrait pas commencer à s'inquiéter pour dire on n'a pas l'argent, pour dire que voilà, comme les mandats a été largement dépassé pour certaines institutions, et bien concevons ou écourtons cette fois-là les mandats pour 3 ans, et bien il faut travailler avec un esprit de responsabilité et en sachant bien qu'on est en retard et il faut travailler avec responsabilité et on a des moyens dans ce pays si la volonté politique est nette.
Alors, pour vous, en ce moment, quels sont les préalables à l'organisation des élections crédibles en RDC?
Le premier préalable, c'est le nettoyage du fichier électoral. Je crois qu'il faut voir est-ce qu'il n'y a pas des doublons, est-ce qu'il n'y a pas d'effectifs. Vous savez que ce n'est pas gay qu'il y ait des gens qui votent encore sur des listes et des dérogations. La mission d'observation de l'Union européenne avait évoqué, c'était presque 17, c'était exactement 17% des gens qui avaient voté sur des listes et des dérogations, des omis. Et en 2006, c'était 8%. En 2011, c'était 17%. Eh bien, il faut que cette tendance ne puisse pas augmenter, qu'on ait peut-être 1% seulement. Eh bien, il faut nettoyer le fichier électoral, ça c'est un préalable pour revenir à votre question. Alors, d'autres préalables, c'est quoi? Il faudrait effectivement qu'il y ait cette commission d'experts pour suivre de près les processus électoraux. Et je crois que il faut mobiliser l'argent, les ressources. En fait, le gouvernement congolais devrait d'abord dire il est capable de mobiliser combien d'argent. Quel est d'abord le budget pour toutes les élections, y compris les élections présidentielles de 2016. Il faut combien d'argent? Une estimation. Et le gouvernement congolais, la RDC, est à mesure de mobiliser combien? Et la RDC, à ce moment-là, pourra être à mesure de dire, voilà, communauté internationale, vous pouvez m'aider à compléter les budgets ou l'estimation budgétaire que j'ai faite. Voilà ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, le plus grand préalable à notre niveau, c'est d'abord ça. Il faut nettoyer les fichiers électoraux. Il faut former les agents électoraux. Il faut vraiment les former à leur
travail. Et disponibiliser le budget.
Il faut disponibiliser le budget et c'est très important. Il ne faut plus prendre beaucoup de retard.
Professeur Bob Kabamba, j'aimerais avoir votre avis sur la manière de normaliser le cycle électoral en RDC.
Il y a plusieurs préalables, hein. Il y a plusieurs préalables qui sont indispensables pour qu'il puisse y avoir des élections crédibles, transparentes et surtout acceptées par la population, mais aussi par les différentes parties prenantes. Mais néanmoins, je voudrais quand même réinsister avant toute chose sur la question des élections locales. Il faut bien se rendre compte que s'il n'y a pas d'élections locales, on aura du mal de pouvoir avoir une décentralisation en RDC. Sans élections locales, la décentralisation serait une espèce de mythe qui ne verra jamais le jour. La décentralisation nécessite à ce qu'il puisse y avoir des élections locales. Alors, pour crédibiliser le processus en réponse à votre question, il y a des préalables institutionnels, il y a des préalables techniques, opérationnels, et il y a aussi des préalables politiques. Pour ce qui concerne les préalables institutionnels, on a beaucoup parlé tout à l'heure lorsque l'on a écouté M. Nabé Malumalu, il a parlé des dispositions légales qui doivent être encore prises pour permettre à ce qu'il puisse y avoir des élections locales. Sans ces préalables-là, on ne pourrait pas avoir des élections locales, c'est-à-dire aussi qu'on n'aura pas de la décentralisation. Autre chose aussi par rapport aux opérations opérationnelles, aux questions opérationnelles, il y a la question du financement. Il faut que la RDC mobilise ses moyens financiers pour pouvoir arriver à financer le processus électoral. Ensuite, il y a la question sécuritaire, la sécurisation de toute la RDC pour qu'il puisse y avoir véritablement des élections partout, dans tous les villages, sans qu'il puisse y avoir des problèmes de sécurité. Ensuite, vous avez toujours sur la question électorale d'avoir une administration électorale compétente, c'est-à-dire bien formée, qui soit en mesure de pouvoir relever les défis d'organiser les élections dans un contexte difficile comme celui de la RDC. Alors, sur les préalables politiques, sans implication des partis politiques, de tous les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, on aura du mal à pouvoir avoir des élections crédibles et transparentes. Et un autre élément, un dernier élément important, toujours dans les préalables politiques, il s'agit de questions internationales, c'est-à-dire qu'il faut, d'une certaine façon, qu'il y ait une espèce de caution internationale qui puisse accréditer que ces élections se sont passées selon les normes de standards internationaux.
Et professeur, à ce jour, par rapport à, une fois de plus, à la manière dont se sont déroulées les élections en RDC, la communauté internationale, de votre point de vue, serait-elle prête, une fois de plus, à s'engager pour aider la RDC?
Il est difficile actuellement de répondre à cette question, puisque lorsque l'on voit l'évaluation du processus électoral du 28 novembre 2011, le résultat est assez catastrophique. Il faut bien se rendre compte de ce qu'on parle. Vous imaginez que les élections de 2011 ont discrédibilisé le processus international de manière profonde. C'est-à-dire que la MONUSCO sur les questions électorales, avec les évaluations qui ont été faites sur le processus électoral à RDC, n'ont pas relevé le niveau de l'assistance internationale dans les différents processus en Afrique. Et donc, la communauté internationale, de mon point de vue, aura beaucoup, beaucoup de mal, de mon point de vue, à pouvoir intervenir à nouveau en RDC sans avoir les garanties de transparence, de gestion des ressources financières et humaines selon les normes internationales. Et donc ici, j'ai beaucoup de doutes par rapport à la mobilisation de la communauté internationale. Et je pense que la RDC aura intérêt à compter sur ses propres forces pour pouvoir organiser les prochaines élections sans nécessairement tenir compte de l'appui de la communauté internationale. Autre élément hyper important sur votre question, c'est la résolution 2098. Dans cette résolution, on ne parle pas de l'assistance électorale comme on en parle de l'assistance électorale dans les autres résolutions. Donc, ça nécessite aussi une révisitation de la mission de la MONUSCO dans le processus d'appui électoral en RDC.
Merci professeur. Je vais prendre quelques réactions des auditeurs. Maître David Mambo de Bouya en province orientale, la démarche de la CENI est certes louable car mieux vaut tard que jamais, mais je me demande si cette fois-ci elle ne pourra pas prétexter le manque de moyens, comme elle en a l'habitude, pour fuir sa responsabilité. Mathieu Baouéré de Goma en Nord-Kivu, l'organisation des élections en RDC est caractérisée par un désordre notoire. L'ordre logique est toujours inversé. C'est le cas des élections de 2006 et 2011, dont les présidentielles et les législatives sont beaucoup plus privilégiées que les municipales et les locales. Pourquoi négliger ces élections de base? Il y a également Adolphe Kouticini de Kananga au Kasaï occidental qui dit « C'est une bonne démarche que la CENI est en train d'entreprendre. Nous voulons avoir des nouvelles dynamiques dans nos provinces et non celles qui sont déjà fatiguées et au-delà de leur mandat. » Professeur Chibangu Kalala, il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Je souhaiterais avoir des réponses assez brèves. Professeur, l'apport de la communauté internationale dans ce processus, le professeur Bob Kabamba émet des doutes.
Donc, je pense que la communauté internationale va nous accompagner. Je ne vais pas énumérer ici plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demandent à la MONUSCO d'apporter le soutien à la RDC pour l'organisation des élections, comme il a toujours fait.
Et donc, il pense même que ça devrait être revu.
Non. J'ai un avis différent à ce sujet. La communauté internationale, qui nous demande d'ailleurs, dans la résolution 2098 du 28 mars, dit très clairement que le représentant spécial des Nations Unies ici en RDC doit faire en sorte qu'il y ait des élections et qu'on commence à organiser les élections provinciales. D'ailleurs, le Conseil de sécurité commence par provincial, élections provinciales et locales. C'est très clair dans la résolution 2098 au paragraphe 14. Et donc, il y a l'engagement de la communauté internationale d'encourager l'organisation des élections. Et la MONUSCO est là, a une composante électorale. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que la principale responsabilité pour organiser des bonnes élections dans notre pays incombe à nous-mêmes Congolais. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront régler tous ces problèmes.
Merci.
Le premier pas dépend de nous, les autres viendront nous donner un appui.
Honorable Juvenal Monobo, la situation sécuritaire ne va-t-elle pas préjudicier sérieusement ce cycle électoral?
Oui, j'ai dit qu'il ne faut pas l'évoquer a priori. Il faut y travailler. Il faut travailler pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Kampala, par exemple, les pourparlers de Kampala ont fait des mois et des mois. Pourquoi on n'a pas clôturé ces pourparlers? Et en fait, ce qu'on devrait faire, c'est de réverser les matières pas encore réglées définitivement dans le cadre d'un dialogue interne. Mais tout ça, ça n'a pas été fait. Hein? Les problèmes de groupes armés locaux, pourquoi ne pas envisager un programme DDR pour résorber tout ça? Eh bien, si on traîne les pas, si on ne résout pas vite la question sécuritaire conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098, ça peut constituer un obstacle, mais ce que nous ne voulons pas, c'est de l'évoquer déjà a priori. Et en termes de préalables, finalement, pour les élections, parce que ça a été, vous avez posé cette question, eh bien, nous pensons qu'il faut effectivement actualiser les fichiers électoraux. Nous pensons qu'il faut instituer ces mécanismes d'experts. Nous pensons qu'il faut produire une cartographie des bureaux de vote à temps et des centres de vote, c'est vraiment important. Nous pensons qu'il faut montrer une volonté claire à mobiliser les ressources et à les affecter pour tous les cycles électoraux, en tout cas pour toutes les élections qui restent jusqu'en 2016 et qu'il n'y ait pas de prétexte. Le recensement des populations ne soit pas un prétexte, tout comme un autre prétexte du temps pour ne pas organiser les élections de 2016.
Et en termes de conclusion, quel conseil pouvez-vous donner à la CENI pour des élections crédibles, brièvement?
J'encourage la CENI à multiplier des contacts avec la société civile et les partis politiques. J'encourage en tout cas la CENI à communiquer. S'il y a des difficultés, les faire à temps et surtout à se laisser compléter par les idées des autres. Il n'y a personne qui puisse connaître tout, évidemment.
Merci.
Et travailler dans le partenariat, et je crois on peut relever les défis.
Professeur Bob Kabamba, en ce qui concerne le budget et les moyens qu'il faut mobiliser, pensez-vous qu'il y ait suffisamment de volonté politique dans ce sens en termes de conclusion?
La volonté politique découle aussi des nécessités et des obligations politiques que les hommes politiques aussi tiennent vis-à-vis de la population. S'il y a de manière très claire une volonté politique de pouvoir organiser des élections, je pense que le Congo sera en mesure de mobiliser les ressources suffisantes pour pouvoir organiser ce processus électoral et terminer ce cycle, surtout avec l'organisation des élections locales, pour qu'il puisse y avoir une décentralisation effective au niveau des communes, villes, ainsi qu'au niveau des secteurs et des chefferies.
Un conseil aussi, professeur, à la CENI pour des élections transparentes.
Toujours comme on a vu, continuer avec la question des forums, c'est-à-dire qu'il est indispensable que les parties prenantes soient impliquées dans tous les processus. Il est important que ces parties prenantes s'approprient le processus électoral. C'est aussi une des conditions de réussite.
Merci.
D'un processus électoral, aussi bien au niveau national qu'au niveau international.
Merci.
Et ne pas oublier la question sécuritaire à l'est du Congo.
Merci, professeur. Professeur Chibangu, conclusion, un conseil à la CENI.
Oui, la CENI doit garder le cap. Ce qu'elle est en train de faire maintenant, c'est une bonne chose. Mais il y a un préalable important sur lequel je dois insister, c'est la révision de la loi électorale. On ne va pas aller aux prochaines élections sans avoir révisé la loi électorale. Il y a beaucoup de failles dans cette loi.
Merci.
Qui ont fait que tout a déraillé en 2011. Nous avons des propositions sérieuses à faire à ce sujet pour voir comment améliorer la loi électorale.
Merci.
Et assurer la transparence et l'honnêteté dans les centres de compilation et dans les bureaux de vote.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, Samuel Kachak, Jean-Claude Nsiala, Patrick Yasongwa, qui ont travaillé sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe.
Présentation et coordination Alain Hirong-Mouchin. Vous avez des suggestions, des remarques, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. Au revoir.